Alors, je voudrais vous encourager ce matin parce que le titre de mon message, et je n'ai rien inventé, c'est proclamer la parole de Dieu. Donc je pense qu'on est dans le sujet. Je pense que on est animé du même esprit et que cet esprit, ben, communique. Et ce matin encore, il nous a vraiment aidés. J'avais une image aussi qui, pendant la louange, que je n'ai pas partagée, simplement, c'est que on a tous une trotteuse. Ça m'a montré comme une ancienne montre qu'on avait avec une chaînette sur un petit blazer. Et ça a montré qu'il y avait des trotteuses qui trottaient, mais qui restaient un peu sur place. C'est-à-dire qu'elles faisaient le mouvement, mais ça n'avançait pas du tout. Et il y en a d'autres, par contre, ça trottait beaucoup plus vite. Et ce qui fait que, des fois, ben, l'heure était plus en avance que certaines autres. Et il y en a d'autres qui étaient en retard. Et ce matin, c'est le temps de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut remettre toutes les trotteuses au même endroit pour s'adapter sur le temps de Dieu, sur la trotteuse de Dieu, pour chacune de nos vies. Proclamer la parole de Dieu, c'est un grand mot. Ce qui est important, c'est qu'on va prendre un contexte, ça va être en trois épisodes, il y a un contexte de vie qu'on connaît tous. Après, il y aura aussi le temps de « je proclame mon identité » en Christ, et il y aura un temps des « je proclame », où on pourra dire « Amen » ou ne pas dire « Amen ». Et je terminerai par une petite histoire que j'ai trouvée sur le net, qui était vraiment sympathique pour clôturer ce message. La vie sur Terre comprend des tests, des épreuves, des tribulations, et certaines de ces épreuves peuvent être très pénibles. Quelle que soit la nature des problèmes, le Seigneur nous l'a dit il y a plus de 2000 ans que nous aurions des tribulations. Le Seigneur nous conduit très souvent dans un désert pour nous former, pour nous enseigner, pour parler à nos cœurs. Ces épreuves ne servent pas seulement à nous tester, mais elles sont là pour nous fortifier. Et souvent, c'est vrai, frères et sœurs, que quand on vit un temps de désert, la première réaction qu'on va avoir, c'est « ça y est, Dieu m'a mis sur le banc, Dieu m'a mis à part, Dieu, je ne sais pas ce qu'il veut, mais en tout cas, voilà, il m'a mis de côté. » Alors que le Seigneur voudrait simplement qu'on se dise, qu'on se pose et qu'on dise « Très bien, Seigneur, tu m'as mis dans ce désert, qu'est-ce que toi tu veux ?» Entendre la parole de Dieu, parce que le Seigneur, ce qu'il veut pour vous et pour moi, c'est qu'on soit à l'écoute de sa voix, à l'écoute de sa parole. C'est ça qui est important. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Pour nous rapprocher du grand Dieu d'amour, et c'est vital pour la croissance spirituelle de notre être. Dieu et sa parole sont un. Et Dieu ne peut aller au-delà de sa parole. De Corinthiens 4, je vais faire le modernisme, hein, parce que... Attention. Ça marche ? C'est magnifique. 2 Corinthiens 4, versets 11 à 14. « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et c'est comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. » Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. L'homme et ses paroles aussi sont un. Nos paroles quotidiennes en famille, avec nos amis, au travail, nous révèlent aux autres qui nous sommes. Notre langue est un feu qui peut cuire tous les problèmes qui se trouvent dans la casserole de notre vie, ou nous enflammer nous-mêmes et nous détruire. Beaucoup de chrétiens peuvent être aussi des incendiaires de leur propre vie à cause des paroles négatives qu'ils confessent chaque jour. Après avoir mis le feu à leur vie, à leur famille, à leur église locale, ils demandent aux hommes de Dieu de jouer aux pompiers pour éteindre le feu qu'ils ont allumé. Il est temps de remplacer nos paroles négatives par les paroles de l'Esprit du Seigneur. Amen. Remplissez d'eau ces jarres, dit Jésus, si nous voulons voir du vin qui donne la joie à notre vie. Levons-nous et vidons nos jarres des eaux polluées, des paroles négatives, et remplissons-les de la parole de Dieu. Proclamons la parole de Dieu et non nos problèmes. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit d'abord venir aussi de nos propres paroles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Beaucoup de ceux qui ont embrassé Jésus à mi-chemin, Jésus-Christ, à mi-chemin l'ont abandonné à cause des tribulations, en s'éloignant du seul chemin de la victoire. Ils ont tout simplement abandonné. Et pourtant, Dieu ne les abandonne, n'abandonne jamais ses enfants bien-aimés, parce que nous sommes aimés de Dieu. Mais il nous met toujours en garde sur la façon dont nous devons marcher avec lui, quelles que soient les difficultés du moment. Hébreux 3, 12, prenez garde, frères, que personne de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ne soyons pas distraits par les difficultés de la vie, car le Seigneur est toujours avec nous dans la barque. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Les temps difficiles doivent nous pousser vers Dieu et non s'en écarter. Être rempli de la plénitude de la sagesse de notre Dieu. Et lui seul sait ce qui est bon pour toi et pour moi. Il connaît nos besoins. Que ce soit une bénédiction ou une motivation à persévérer dans notre marche avec lui. Je proclame mon identité. Psaume 119, versets 40 à 48. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans la justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Le psalmiste désire rendre témoignage de la parole de Dieu, défendre sa position spirituelle en s'appuyant sur cette parole vivante. Le verset clé dans ce passage, c'est le verset 46. « Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. » Verset 41, « Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut, selon ta promesse. » Comment pourrait-on rendre témoignage de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ si on n'est pas convaincu soi-même de ce témoignage dans notre être intérieur? Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Le psalmiste savait puiser. Il voulait cette assurance et cette force dans son témoignage. Je me confie en ta parole. David aussi pouvait écrire dans le psaume 56, « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes ?» C'est son amour profond, sa confiance en Dieu et en sa parole qui s'est exprimée dans ce verset. L'épître aux Hébreux, au chapitre 13, rend la même pensée. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peuvent me faire les hommes ?» On a souvent montré du doigt tous ceux qui aimaient Dieu et vivaient sa parole. On les a persécutés. Certains ont même connu la mort à cause de leur foi. Mais ils ont défendu leur position spirituelle jusqu'au bout, en s'appuyant sur ce qui est écrit. Ils se faisaient défenseurs de la parole de Dieu, parce qu'ils croyaient dans son inspiration, dans son authenticité, dans son autorité spirituelle et surtout dans son accomplissement. L'apôtre Pierre exhorte ses lecteurs dans ce domaine du témoignage, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Nous n'avons pas à nous défendre ou à riposter par force. C'est ce que Jésus a fait à l'égard de tous ceux qui lui tendaient des pièges, qui voulaient l'éprouver. Je pense qu'il est logique qu'on nous demande la raison de notre espérance. Si quelqu'un vous demande « Est-ce que tu crois en Jésus ?» tu es libre de pouvoir répondre. Mais c'est normal. Si aujourd'hui on est là ce matin, on est dans une église où on est sûr que la police ne va pas rentrer, nous enlever, nous mettre en prison parce qu'on proclame et qu'on chante et qu'on loue Jésus-Christ. Et ça, parfois, frères et sœurs, c'est comme allumer la lumière avec un interrupteur. C'est quelque chose de courant pour nous. Alors qu'on oublie qu'il y a un fil, il y a un générateur, c'est si simple. Mais on peut voir aussi dans certains pays que ce n'est pas le cas. Que eux, ce matin, ils ont dû peut-être se cacher, courir, utiliser des chemins tortueux pour aller louer Jésus-Christ. Peut-être dans des souterrains, peut-être dans des choses de fortune. Mais en tout cas, ils y ont été avec leur foi, parce que leur foi, elle est en Jésus-Christ. L'aveugle de naissance, par exemple, a dû défendre le miracle de la guérison qu'il venait de recevoir. Voici ce qu'il dira aux pharisiens qui ne croyaient pas qu'il avait été aveugle et dénigraient Jésus. Dans Jean 9, verset 25, « S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Prenons encore l'exemple de Pierre et Jean, arrêtés à cause du bienfait accordé à l'homme boiteux assis à la porte du temple. Il disait, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si on reprend le verset 43 du psaume 119, « N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. » Cette prière révèle une disposition du cœur, un désir, un soupir, celui de ne pas s'écarter de la vérité, de savoir veiller sur sa bouche. Il désire que la vérité soit toujours la source d'inspiration et que cette source de vérité ne tarisse jamais en lui. Il veut être un homme de la vérité. Il veut que son témoignage soit authentique parce qu'il sait que le Seigneur veut que la vérité soit au fond du cœur de l'homme. Est-ce que la vérité est dans nos cœurs? Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 59, nous trouvons une magnifique promesse qui est pour nous dans la mesure où nous aimons la vérité, qui dit « Quant à moi, déclare l'Éternel, voici quelle est l'alliance que je fais avec eux. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mets dans ta bouche ne s'écarteront ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de leurs enfants. Voilà ce que dit l'Éternel dès maintenant et pour l'éternité. » Le Seigneur annonce une alliance entre l'Éternel et son peuple. Dans ce cadre, il lui donnera son esprit. Je pense que le Seigneur a accompli cela, parce qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Il le rendra réceptif à sa parole. On connaît la voix de Jésus, parce qu'il dit « Mes brebis connaissent ma voix ». Comme le serviteur de l'Éternel qui tend son oreille matin après matin, comme un disciple de Jésus. Le psalmiste a une ambition spirituelle qui devrait animer tout enfant de Dieu tout au long de sa vie. Dans Hébreux, il est dit « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imitez ceux qui, par leur foi et leurs attentes patientes, reçoivent l'héritage promis. » Le zèle pour la parole de Dieu a besoin d'être entretenu, comme l'espérance qui s'attache à notre appel. Car ce n'est pas le commencement d'une chose qui importe, mais c'est sa fin. Le danger, c'est de se relâcher dans son zèle pour le service de Dieu, pour le témoignage à rendre, mais aussi dans l'étude de la parole de Dieu, et de sombrer dans une forme de paresse. Ce relâchement est nuisible au progrès de la maturité spirituelle. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, nous dit Hébreux 5. Pour garder du zèle et de l'énergie spirituelle dans l'œuvre de Dieu, ne regardons pas à ceux qui s'arrêtent, mais suivons les exemples qui nous ont laissé la parole de Dieu. Ces hommes n'ont pas toujours connu la facilité ni l'approbation des autres, mais ils sont restés fidèles jusqu'au bout, ayant foi en ce que Dieu leur avait dit et promis. Je marcherai au large car je recherche tes ordonnances. Le psalmiste avait découvert cette vérité fondamentale. Marcher d'après les préceptes de la parole de Dieu procure aussi la liberté, mais la vraie liberté. Souvent dans les chants, on entend « Soyons libres », on prie vraiment pour que les gens soient libres. Jésus nous a libérés, mais est-ce qu'on est réellement libre des fois? Il y a tout un travail que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun, dans les délivrances qu'il opère en son temps. Mais quoi qu'il en soit, Jésus nous voit libres. Dieu nous voit libres. Et Dieu veut, comme ce matin ça a été dit, que tu sois aussi libre, que tu proclames la parole de Dieu. Si on applique réellement dans la vie de tous les jours ce qu'on découvre dans la parole de Dieu, on connaîtra la liberté spirituelle. La liberté des enfants de Dieu découle d'une vie conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre la voie royale de la vraie liberté, non pas celle que connaît le monde, mais celle qui fait marcher toujours plus près du Seigneur sur le chemin de la justice. Verset 46, qui était en effet la clé, « Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. » Le psalmiste manifeste son témoignage de ce qu'il a découvert et de ce qu'il vit chaque jour grâce à la parole de Dieu. Elle lui a apporté tant de bienfaits et de richesses qu'il ne peut les garder pour lui. Il veut les publier jusque devant les rois. Il a conscience que ces vérités répondent aux besoins des cœurs et rendent sages même les grands de ce monde. On peut comprendre qu'il ne puisse pas se taire. Jésus a pu dire à ses disciples, « Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Saul de Tarse, arrêté sur sa route, eut la révélation de Jésus qu'il persécutait. Celui-ci donna à Ananias le message suivant à son sujet. « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Toute créature a besoin d'entendre le message de l'Évangile, témoignage de la grâce de Dieu. Même les hommes les plus haut placés ont besoin de savoir que Jésus les aime, qu'il a donné sa vie pour eux. Malheureusement, certains qui ont eu ce privilège n'ont pas su saisir l'occasion, alors que c'était aussi le temps de Dieu. La parole de Dieu est ancrée dans le cœur du psalmiste. Elle lui a donné la liberté spirituelle, elle lui a communiqué de l'assurance, si bien qu'il peut dire « Je ne ressentirai aucune honte ». L'apôtre Paul dira aussi « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu ». Dans la traduction du semeur, il dira « Car je suis fier de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qu'il croit, les juifs d'abord et aussi les non-juifs ». Paul souligne l'enracinement dans son message de l'Ancien Testament et en précise aussi la teneur, le salut par la foi dans le Christ. Un petit témoignage de John Wesley concernant la portée spirituelle que peut avoir la parole de Dieu dans le cœur le plus hostile. Un jour, John Wesley est arrêté par un voleur qui lui demande sa bourse. Le missionnaire la lui donne et lui dit « Écoute un seul mot. Si jamais vient le temps où tu regrettes la vie que tu mènes, rappelle-toi cette parole. le sang de Christ purifie de tout péché. » Il n'en dit pas davantage et laissa le voleur. Bien des années plus tard, au sortir d'une église où il venait annoncer l'évangile, John Wesley rencontre un homme qui lui dit « Vous rappelez-vous d'avoir été arrêté et volé à telle époque, dans ce lieu ?»« Oui, sans doute. Eh bien, je suis le coupable. La parole que vous m'aviez dite est tombée sur ma conscience. » Et elle a si bien germé que j'ai fini par quitter ce métier détestable pour m'attacher au Sauveur et mener une vie paisible et honnête. C'est le temps des « Je proclame ». Je proclame que je suis aimé de Dieu malgré mes défauts, mes faiblesses. Je suis racheté et accepté par le Seigneur. Je suis créé à l'image de Dieu et je suis unique à ses yeux. Amen. Je proclame que je suis en Jésus-Christ, que je suis devenu une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées pour moi, que toute chose est nouvelle par le Seigneur dans ma vie, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Je proclame que je ne suis pas arrivé dans ce monde par un heureux hasard. C'est parce que j'ai du prix aux yeux du Seigneur Jésus-Christ que je suis devenu dans ce monde pour l'honorer, le glorifier et l'aimer. Je confesse de ma bouche que le Saint-Esprit de Dieu habite pleinement en moi et que sa grâce abonde et surabonde dans ma vie. Amen. Je peux faire ce que Dieu a dit car je suis capable d'accomplir par le Saint-Esprit qui habite en moi. Je suis un ambassadeur, une ambassadrice de son divin royaume. Ma vie n'est pas un échec. Même si je passe par des moments difficiles, je reconnais que le Seigneur m'a dit que j'aurai des tribulations. Il m'a aussi dit de prendre courage. Alors je proclame que derrière cette montagne, il y a ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je proclame que mon avenir est brillant, mon futur est radieux. Je reçois les principes divins pour atteindre tout ce que le Seigneur a prévu pour moi au nom de Jésus-Christ. Je proclame que le Seigneur prend soin de moi. Je suis la prunelle de ses yeux. Le Seigneur Jésus-Christ m'a créé à son image, selon sa ressemblance. Je proclame que Christ est désormais le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je suis l'œuvre parfaite que sa main a faite. Je proclame qu'en Christ, je connais mon identité. Je suis un enfant de Dieu bien-aimé. Il me connaît depuis le sein de ma mère. Et son choix qui s'est porté sur moi n'est pas le fait d'un hasard. Je ne me laisserai pas intimider ni par l'ennemi, ni par les autres. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances du monde des ténèbres, ni les temps difficiles, ni les tribulations, ni aucun raisonnement, ni les esprits méchants dans les lieux célestes ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est un petit amen, ça, quand même. Je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je proclame que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En conclusion, prenons le temps de faire connaître l'auteur de notre si grand salut. Prenons le temps de proclamer ce Dieu-là, l'auteur de ce grand salut dans notre propre vie. Pas de le connaître, de le saisir. Que quand je prie le matin, je sais à qui je m'adresse. Que ça ne reste pas collé au plafond, mais que Jésus m'entend et il m'exauce. Prenons le temps de nous entretenir pour que notre foi ne défaille point, frères et sœurs. La parole de Dieu sera toujours la source d'énergie inépuisable et irremplaçable pour celui qui marche vers l'éternité. Je vais terminer par cette petite histoire, question d'un jeune étudiant. Un professeur universitaire défia ses élèves avec cette question. « Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe ?» Un étudiant répondit bravement « Oui, il l'a fait. » Le professeur dit « Dieu a tout créé. »« Oui, monsieur, » répliqua l'étudiant. Le professeur répondit « Si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal, puisque le mal existe. » Et selon le principe de nos travaux qui définit ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais. L'étudiant fut silencieux devant une telle réponse. Le professeur était tout à fait heureux lui-même et il se vantait devant les étudiants d'avoir su prouver encore une fois que la foi est un Dieu, en Dieu était un mythe. L'étudiant leva sa main et dit « Puisque vous posez une question, puis-je vous poser une question, professeur ?»« Bien sûr, » répondit le professeur. L'étudiant répliqua « Professeur, le froid existe-t-il ? » Quel genre de question est-ce cela ? Bien sûr qu'il existe. Vous n'avez jamais eu froid, dit le professeur. Le jeune homme dit, en fait, monsieur, le froid n'existe pas. Selon la loi de la physique, ce que nous considérons comme être le froid est en réalité l'absence de chaleur. Tout individu et tout objet possède ou transmet de l'énergie. La chaleur est produite par un corps ou par une matière qui transmet de l'énergie. Le zéro absolu est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Le froid n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n'avons aucune chaleur. L'étudiant continua, « Professeur, l'obscurité existe-t-elle ? » Le professeur répondit, « Bien sûr qu'elle existe. » L'étudiant lui dit, « Vous avez encore tort, monsieur. » L'obscurité n'existe pas non plus. L'obscurité, c'est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l'obscurité. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur. Vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité et l'illuminer. Comment pouvez-vous avoir l'espace qu'occupe l'obscurité? Comment pouvons-nous mesurer l'espace qu'occupe l'obscurité? Pour mesurer la quantité de lumière présente, n'est-ce pas vrai? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. Finalement, le jeune homme demanda au professeur, « Monsieur, le mal existe-t-il ? » Maintenant incertain, le professeur répondit, « Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, nous le voyons chaque jour. » C'est dans les exemples quotidiens de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. C'est dans la multitude des crimes et des violences, c'est partout dans le monde. Ces manifestations ne sont rien d'autre que du mal. L'étudiant répondit, le mal n'existe pas, monsieur. Et au moins, il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de foi en Dieu. Il est comme l'obscurité et le froid, un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de foi en Dieu. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existe, tout comme la lumière et la chaleur. Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur, ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière. Quel est le nom de ce jeune étudiant ? C'est pas évident même pour nos étudiants de proclamer la parole de Dieu quand on est à la fac, avec tout ce qu'on entend, avec des professeurs qui pensent tout connaître. C'est ça aussi témoigner, frères et sœurs. C'est ça proclamer la parole de Dieu. Prions. Père éternel, merci. Merci pour cette assemblée, Seigneur, et je veux vraiment la bénir en ton nom, Seigneur. Chacun et chacune soit béni, visité par ta main, Seigneur, ce matin. Tu as déjà fait beaucoup ce matin. Et te remercions de cette présence, de cet accès que nous avons avec toi. On entend ta voix. Tu es toujours ce Dieu qui encourage. Et j'espère ce matin vraiment, Seigneur, que ceux qui ont reçu de toi ressortent, Seigneur, peut-être pas comme ils sont entrés ce matin. Parce que c'est toi qui es honoré. C'est toi qui es loué. C'est toi qui dois être adoré. Malgré les circonstances, Seigneur, malgré les circonstances, tu es toujours digne d'être loué. Comme ça a été dit ce matin, des choses que nous vivons ne sont pas toujours le fruit de ce que toi, tu as fait. Nous aussi, nous commettons des erreurs. Les autres aussi commettent des erreurs sur nous. Mais toi, tu es la solution. Toi, tu es celui qui guérit, qui délivre, qui relève. Et c'est toi que nous voulons louer et adorer ce matin. C'est toi que nous voulons mettre à l'honneur ce matin. Comme Bruno l'a dit, on n'est pas venu pour recevoir, on est venu pour donner. Mais on a reçu. Alors nous te louons, nous te bénissons. Merci pour tout le travail que tu fais. Merci encore, Seigneur, pour le travail dans les cœurs. Merci pour chacun et chacune qui a cette valeur à tes yeux. Et ce matin, tu lui dis, je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mais je veux le meilleur pour toi. Alors fais-moi confiance. Dépose ta vie devant moi. Lâche le contrôle. Lâche le contrôle et laisse-moi faire. Tu te débats, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu luttes contre toi-même et tes forces vont s'amenuiser. Tu vas être fatigué, épuisé. Tu n'auras plus la force de te relever. Alors lâche prise. Donne-moi. Donne-moi. Remets-moi. Abandonne. Et je vais te relever. Je vais t'apporter les solutions. Mets ta confiance en moi. Merci Jésus.